Aguet, 8 avril. Beau temps, monsieur. Je me lève et monte sur le pont. Il est 3 heures du matin. La mer est plate, le ciel infini ressemble à une immense voûte d'ombre ensemencée de graines de feu. Une brise très légère souffle de terre. Le café est chaud, nous le buvons, et sans perdre une minute pour profiter de ce vent favorable, nous partons. Nous voilà glissant sur l'onde vers la pleine mer. La côte disparaît, on ne voit plus rien autour de nous que du noir. C'est là une sensation, une émotion troublante et délicieuse. S'enfoncer dans cette nuit vide, dans ce silence sur cette eau, loin de tout. Il semble qu'on quitte le monde, qu'on ne doit plus jamais arriver nulle part, qu'il n'y aura plus de rivage, qu'il n'y aura pas de jour. À mes pieds, une petite lanterne éclaire le compas qui m'indique la route. Il faut courir au moins 3 000 au large pour doubler sûrement le Cap-Roux et le Dramont, quel que soit le vent qui donnera lorsque le soleil sera levé. J'ai fait allumer les fanaux de position, rouge bâbord et vert tribord, pour éviter tout accident, et je jouis avec ivresse de cette fuite muette, continue et tranquille. Tout à coup, un cri s'élève devant nous. Je tressaille, car la voix est proche, et je n'aperçois rien, rien que cette obscure muraille de ténèbres où je m'enfonce et qui se referme derrière moi. Raymond, qui veille à l'avant, me dit « C'est une tartane qui va dans l'est. Arrivez un peu, monsieur. Nous passons derrière. » Et soudain, tout près, se dresse un fantôme effrayant et vague, la grande ombre flottante d'une haute voile aperçue quelques secondes et disparue presque aussitôt. Rien n'est plus étrange, plus fantastique et plus émouvant que ces apparitions rapides sur la mer, la nuit. Les pêcheurs et les sabliers ne portent jamais de feu. On ne les voit donc qu'en les frôlant, et cela vous laisse le serrement de cœur d'une rencontre surnaturelle. J'entends au loin un sifflement d'oiseau. Il approche, passe et s'éloigne. Que ne puis-je errer comme lui? L'aube enfin paraît, lente et douce, sans un nuage, et le jour la suit, un vrai jour d'été. Raymond affirme que nous aurons vent d'est. Bernard tient toujours pour l'ouest et me conseille de changer d'allure et de marcher tribord à mur sur le Dramont qui se dresse au loin. Je suis aussitôt son avis, et sous la lente poussée d'une brise agonisante, nous nous rapprochons de l'Estérel. La longue côte rouge tombe dans l'eau bleue qu'elle fait paraître violette. Elle est bizarre, hérissée, jolie, avec des pointes, des golfes innombrables, des rochers capricieux et coquets, 1000 fantaisies de montagnes admirées. Sur ses flancs, les forêts de sapins montent jusqu'aux cimes de granit qui ressemblent à des châteaux, à des villes, à des armées de pierres courant l'une après l'autre. Et la mer est si limpide à son pied qu'on distingue par places les fonds de sable et les fonds d'herbe. Certes, en certains jours, j'éprouve l'horreur de ce qui est jusqu'à désirer la mort. Je sens jusqu'à la souffrance suraiguë la monotonie invariable des paysages, des figures et des pensées. La médiocrité de l'univers m'étonne et me révolte. La petitesse de toute chose m'emplit de dégoût. La pauvreté des êtres humains m'anéantit. En certains autres, au contraire, je jouis de tout à la façon d'un animal. Si mon esprit inquiet, tourmenté, hypertrophié par le travail, s'élance à des espérances qui ne sont point de notre race, et puis retombe dans le mépris de tout, après en avoir constaté le néant, mon corps de bête se grise de toutes les ivresses de la vie. J'aime le ciel comme un oiseau, les forêts comme un loup rôdeur, les rochers comme un chamois, l'herbe profonde pour m'y rouler, pour y courir comme un cheval, et l'eau limpide pour y nager comme un poisson. Je sens frémir en moi quelque chose de toutes les espèces d'animaux, de tous les instincts, de tous les désirs confus des créatures inférieures. J'aime la terre comme elle et non comme vous, les hommes. Je l'aime sans l'admirer, sans la poétiser, sans m'exalter. J'aime d'un amour bestial et profond, méprisable et sacré, tout ce qui vit, tout ce qui pousse, tout ce qu'on voit. Car tout cela, laissant calme mon esprit, trouble mes yeux et mon cœur. Tout, les jours, les nuits, les fleuves, les mers, les tempêtes, les bois, les aurores, le regard et la chair des femmes. La caresse de l'eau sur le sable des rives ou sur le granit des roches m'émeut et m'attendrit. Et la joie qui m'envahit quand je me sens poussé par le vent et porté par la vague, née de ce que je me livre aux forces brutales et naturelles du monde, de ce que je retourne à la vie primitive. Quand il fait beau comme aujourd'hui, j'ai dans les veines le sang des vieux faunes, lascifs et vagabonds. Je ne suis plus le frère des hommes, mais le frère de tous les êtres et de toutes les choses. Le soleil monte sur l'horizon. La brise tombe comme avant-hier, mais le vent d'ouest prévu par Bernard ne se lève pas plus que le vent d'est annoncé par Raymond. Jusqu'à 10 heures, nous flottons immobiles comme une épave. Puis un petit souffle du large nous remet en route. Tombe. René semble se moquer de nous, agacer la voile, nous promettre sans cesse la brise qui ne vient pas. Ce n'est rien, l'haleine d'une bouche ou un battement d'éventail. Cela pourtant suffit à ne pas nous laisser en place. Les marsouins, ces clowns de la mer, jouent autour de nous, jaillissent hors de l'eau d'un élan rapide comme s'ils s'envolaient, passent dans l'air plus vif qu'un éclair, puis plongent et ressortent plus loin. Vers 1 heure, comme nous nous trouvions par le travers d'Aguet, la brise tomba tout à fait, et je compris que je coucherais au large si je n'armais pas l'embarcation pour remorquer le yacht et me mettre à l'abri dans cette baie. Je fis donc descendre 2 hommes dans le canot, et à 30 mètres devant moi, ils commencèrent à me traîner. Un soleil enragé tombait sur l'eau, brûlait le pont du bateau. Les 2 matelots ramaient d'une façon très lente et régulière, comme 2 manivelles usées qui ne vont plus qu'à peine, mais qui continuent sans arrêt leur effort mécanique de machine. La rade d'Aguet forme un joli bassin bien abrité, fermé d'un côté par les rochers rouges et droits, que domine le sémaphore au sommet de la montagne et que continue vers la pleine mer l'île d'or, nommée ainsi à cause de sa couleur. De l'autre, par une ligne de roches basses et une petite pointe à fleurs d'eau, portant un phare pour signaler l'entrée. Dans le fond, une auberge qui reçoit les capitaines des navires réfugiés là par les gros temps et les pêcheurs en été. une gare où ne s'arrêtent que deux trains par jour et où ne descend personne, et une jolie rivière s'enfonçant dans l'Estérel jusqu'au vallon nommé Malin Fermé et qui est plein de lauriers roses comme un ravin d'Afrique. Aucune route n'aboutit de l'intérieur à cette baie délicieuse. Seul un sentier conduit à Saint-Raphaël en passant par les carrières de porphyre du Dramont, mais aucune voiture ne le pourrait suivre. Nous sommes donc en pleine montagne. Je résolus de me promener à pied jusqu'à la nuit par les chemins bordés de schistes et de lentisques. Leur odeur de plantes sauvages, violente et parfumée, emplit l'air, se mêle au grand souffle de résine de la forêt immense qui semble haleter sous la chaleur. Après 1 heure de marche, j'étais en plein bois de sapins, un bois clair sur une pente douce de montagne. Les granits pourpres, ces os de la terre, semblaient rougis par le soleil, et j'allais lentement, heureux comme doivent l'être les lézards sur les pierres brûlantes, quand j'aperçus, au sommet de la montée, venant vers moi sans me voir, deux amoureux ivres de leurs rêves. C'était joli, c'était charmant, ces deux êtres aux bras liés, descendant, à pas distraits, dans les alternatives de soleil et d'ombre qui bariolaient la côte inclinée. Elle me parut très élégante et très simple, avec une robe grise de voyage et un chapeau de feutre hardi et coquet. Lui, je ne le vis guère. Je remarquai seulement qu'il avait l'air comme il faut. Je m'étais assis derrière le tronc d'un pin pour les regarder passer. Ils ne m'aperçurent pas et continuèrent à descendre en se tenant par la taille, sans dire un mot, tant ils s'aimaient. Quand je ne les vis plus, je sentis qu'une tristesse m'était tombée sur le cœur. Un bonheur m'avait frôlé, que je ne connaissais point et que je pressentais le meilleur de tous. Et je revins vers la baie d'Aguet, trop las maintenant pour continuer ma promenade. Jusqu'au soir, je m'étendis sur l'herbe au bord de la rivière et vers 7 heures, j'entrai dans l'auberge pour dîner. Mes matelots avaient prévenu le patron qui m'attendait. Mon couvert était mis dans une salle basse, peinte à la chaux, à côté d'une autre table où dînaient déjà, face à face, et se regardant au fond des yeux, mes deux amoureux de tantôt. J'eus honte de les déranger, comme si je commettais là une chose inconvenante et vilaine. Ils m'examinèrent quelques secondes, puis se mirent à causer tout bas. L'aubergiste, qui me connaissait depuis longtemps, prit une chaise près de la mienne. Il me parla des sangliers et du lapin, du beau temps, du mistral, d'un capitaine italien qui avait couché là l'autre nuit, puis, pour me flatter, vanta mon yacht, dont j'apercevais par la fenêtre la coque noire et le grand mât portant au sommet mon guidon rouge et blanc. Mes voisins, qui avaient mangé très vite, sortirent aussitôt. Moi, je m'attardai à regarder le mince croissant de la lune poudrant de lumière la petite rade. Je vis enfin mon canot qui venait à terre, rayant de son passage l'immobile et pâle clarté tombée sur l'eau. Descendu pour m'embarquer, j'aperçus, debout sur la plage, les deux amants qui contemplaient la mer. Et comme je m'éloignais au bruit pressé des avirons, je distinguais toujours leurs silhouettes sur le rivage, leurs ombres dressées côte à côte. Elles emplissaient la baie, la nuit, le ciel, tant l'amour s'exhalait d'elles, s'épandait par l'horizon, les faisait grandes et symboliques. Et quand je fus remonté sur mon bateau, je demeurai longtemps assis sur le pont, plein de tristesse, sans savoir pourquoi, plein de regrets, sans savoir de quoi, ne pouvant me décider à descendre enfin dans ma chambre, comme si j'eusse voulu respirer plus longtemps un peu de cette tendresse répandue dans l'air autour d'eux. Tout à coup, une des fenêtres de l'auberge s'éclairant, je vis dans la lumière leurs deux profils. Alors ma solitude m'accabla, et dans la tiédeur de cette nuit printanière, au bruit léger des vagues sur le sable, sous le fin croissant qui tombait dans la pleine mer, je sentis en mon cœur un tel désir d'aimer que je faillis crier de détresse. Puis, brusquement, j'eus honte de cette faiblesse, et ne voulant pas m'avouer que j'étais un homme comme les autres, j'accusai le clair de lune de m'avoir troublé la raison. J'ai toujours cru d'ailleurs que la lune exerce sur les cervelles humaines une influence mystérieuse. Elle fait divaguer les poètes, les rend délicieuses ou ridicules, et produit sur la tendresse des amoureux l'effet de la bobine de Ruhmkorff sur les courants électriques. L'homme qui aime normalement sous le soleil adore frénétiquement sous la lune. Une femme, jeune et charmante, me soutint un jour, je ne sais plus à quel propos, que les coups de lune sont mille fois plus dangereux que les coups de soleil. On les attrape, disait-elle, sans s'en douter en se promenant par les belles nuits. Et on n'en guérit jamais, on reste fou, non pas fou furieux, fou à enfermer, mais fou d'une folie spéciale, douce et continue. On ne pense plus en rien comme les autres hommes. Certes, j'ai dû ce soir recevoir un coup de lune, car je me sens déraisonnable et délirant, et le petit croissant qui descend vers la mer m'émeut, m'attendrit et me navre. Qu'a-t-elle donc de si séduisant, cette lune, vieil astre défunt, qui promène dans le ciel sa face jaune et sa triste lumière de trépassé pour nous troubler ainsi, nous autres que la pensée vagabonde agite. L'aimons-nous parce qu'elle est morte, comme dit le poète Haraucourt. Puis ce fut l'âge blond des tiédeurs et des vents. La lune se peupla de murmures vivants. Elle eut des mers sans fond et des fleuves sans nombre. Des troupeaux, des cités, des pleurs, des cris joyeux, elle eut l'amour, elle eut César, ses lois, ses dieux, et lentement rentra dans l'ombre. L'aimons-nous parce que les poètes, à qui nous devons l'éternelle illusion dont nous sommes enveloppés en cette vie, ont troublé nos yeux par toutes les images aperçues dans ces rayons, nous ont appris à comprendre de mille façons, avec notre sensibilité exaltée, le monotone et doux effet qu'elle promène autour du monde. Quand elle se lève derrière les arbres, quand elle verse sa lumière frissonnante sur un fleuve qui coule, quand elle tombe à travers les branches sur le sable des allées, quand elle monte solitaire dans le ciel noir et vide, quand elle s'abaisse vers la mer, allongeant sur la surface onduleuse et liquide, une immense traînée de clarté, ne sommes-nous pas assaillis par tous les vers charmants qu'elle inspira aux grands rêveurs ? Si nous allons, l'âme gaie, par la nuit, et si nous la voyons toute ronde, ronde comme un œil jaune qui nous regarderait, perchée jusqu'au-dessus d'un toit, l'immortelle ballade de Musset se met à chanter dans notre mémoire. Et n'est-ce pas lui, le poète railleur, qui nous la montre aussitôt avec ses yeux? C'était dans la nuit brune, sur le clocher jauni, la lune, comme un point sur un i. Lune, quel esprit sombre promène au bout d'un fil, dans l'ombre, ta face ou ton profil. Si nous nous promenons un soir de tristesse sur une plage, au bord de l'océan qu'elle illumine, ne nous mettons-nous pas, presque malgré nous, à réciter ces deux vers si grands et si mélancoliques? Seule au-dessus des mers, la lune voyageant laisse dans les flots noirs tomber ses pleurs d'argent. Si nous nous réveillons dans notre lit qu'éclaire un long rayon entrant par la fenêtre, ne nous semble-t-il pas aussitôt voir descendre vers nous la figure blanche qu'évoque Catulle Mendès? Elle venait avec un lys dans chaque main, la pente d'un rayon lui servant de chemin. Si, marchant le soir par la campagne, nous entendons tout à coup quelque chien de ferme pousser sa plainte longue et sinistre, ne sommes-nous pas frappés brusquement par le souvenir de l'admirable pièce de Le Comte de Lisle, Les Hurleurs? Seule la lune pâle, en écartant la nue, comme une morne lampe oscillait tristement. Monde muet, marqué d'un signe de colère, débris d'un globe mort au hasard dispersé, elle laissait tomber de son orbe glacé un reflet sépulcral sur l'océan polaire. Par un soir de rendez-vous, l'on va tout doucement dans le chemin, serrant la taille de la bien-aimée, lui pressant la main et lui baisant la tempe. Elle est un peu lasse, un peu émue et marche d'un pas fatigué. Un banc apparaît, sous les feuilles que mouille, comme une onde calme, la douce lumière. Est-ce qu'il n'éclate pas dans notre esprit, dans notre cœur, ainsi qu'une chanson d'amour exquise, les deux vers charmants? Et réveillé, pour s'asseoir à sa place, le clair de lune endormi sur le banc. Peut-on voir le croissant dessiné, comme ce soir, dans un grand ciel ensemencé d'astres, son fin profil, sans songer à la fin de ce chef-d'œuvre de Victor Hugo qui s'appelle « Bose endormi ». Et Ruth se demandait, immobile, ouvrant l'œil à demi sous ses voiles, quel dieu, quel moissonneur de l'éternel été, avait, en s'en allant, négligemment jeté cette faucille d'or dans le champ des étoiles. Et qui donc a jamais mieux dit que Hugo la lune galante et tendre aux amoureux? La nuit vint, tout se tut, les flambeaux s'éteignirent, dans les bois assombris les sources se plaignirent. Le rossignol, caché dans son nid ténébreux, chanta comme un poète et comme un amoureux. Chacun se dispersa sous les profonds feuillages. Les folles en riant entraînèrent les sages. L'amante s'en alla dans l'ombre avec l'amant, et troublée comme on l'est en songe vaguement, ils sentaient par degrés se mêler à leur âme, à leurs discours secrets, à leurs regards de flamme, à leur cœur, à leur sens, à leurs mots, leur raison, le clair de lune bleue qui baignait l'horizon. Et je me rappelle aussi cette admirable prière à la lune qui ouvre le 11e livre de l'Âne d'or d'Apulée. Mais ce n'est point assez pourtant que toutes ces chansons des hommes pour nous mettre en notre cœur la tristesse sentimentale que ce pauvre astre nous inspire. Nous plaignons la lune, malgré nous, sans savoir pourquoi, sans savoir de quoi, et pour cela, nous l'aimons. La tendresse que nous lui donnons est mêlée aussi de pitié. Nous la plaignons comme une vieille fille, car nous devinons vaguement, malgré les poètes, que ce n'est point une morte, mais une vierge. Les planètes, comme les femmes, ont besoin d'un époux, et la pauvre lune, dédaignée du soleil, n'a-t-elle pas simplement coiffé Sainte-Catherine, comme nous le disons ici-bas? Et c'est pour cela qu'elle nous emplit, avec sa clarté timide, d'espoirs irréalisables et de désirs inaccessibles. Tout ce que nous attendons obscurément et vainement sur cette terre agite notre cœur comme une sève impuissante et mystérieuse sous les pâles rayons de la lune. Nous devenons, les yeux levés sur elle, frémissants de rêves impossibles et assoiffés d'inexprimables tendresses. Les trois croissants, un fil d'or, trempait maintenant dans l'eau sa pointe aiguë, et il plongea doucement, lentement, jusqu'à l'autre pointe, si fine que je ne la vis pas disparaître. Alors je levai mon regard vers l'auberge. La fenêtre éclairée venait de se fermer. Une lourde détresse m'écrasa et je descendis dans ma chambre.